BFM Business, BFM Bourse. La clôture à Euronext.
Et la clôture à Euronext, c'est au son de la cloche hein, qu'on la marque, cette clôture. En principe, il y a une petite cloche. Je ne sais pas si c'est vous, Étienne, qui l'agitez, cette cloche. On refait la séance, non seulement avec vous, Étienne Braque, à Euronext. On va retrouver tout à l'heure Romain Daubry, Bourse Direct, et sont d'ores et déjà en plateau. Franck Morel, président de Zone Bourse. Bonjour Franck. Et Thibaut François, qui nous accompagne depuis le début de cette émission de Fastea Capital. Qu'est-ce que ça donne, la clôture, Étienne? Est-ce qu'on garde les 1% de hausse? Je crois qu'on est légèrement en dessous.
Quasiment, oui, en effet. 0,97% de hausse ce soir à la clôture, un CAC 40 qui retrouve les 7800 points, 7864 points. En effet, une partie, puisque pour rappel, en l'espace de deux séances, le CAC 40 a perdu 2,7%, donc il reprend quasiment 1% ce soir. Des volumes d'échanges qui sont supérieurs à la moyenne de ces dernières semaines, mais inférieurs à ces deux dernières séances. 3,7 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien, avec le secteur bancaire qui rebondit, qui rattrape en partie ses pertes de ces deux dernières séances. Société Générale reprend un peu plus de 2%, 23,35. Vous avez BNP également qui prend plus de 2%, Vinci plus 2,3% à 103,10. Quand de son côté, les valeurs défensives sous-performent ce soir à la clôture. Idem pour le secteur du luxe. LVMH perd 0,2% à 735. Kering moins 0,8% à 316. Avec un nouveau risque de tension commerciale entre la Chine et les États-Unis, entre l'Europe et la Chine, pardon, puisque vous avez l'Europe qui souhaite mettre en place des taxes sur les véhicules chinois et la Chine qui prévient que si ça se concrétise, eh bien, n'hésiterait pas à mettre en place également des taxes vis-à-vis de l'Europe. À noter l'obligataire qui se détend très clairement ce soir avec des chiffres d'inflation qui sont ressortis très clairement en dessous des attentes en ce qui concerne l'inflation aux États-Unis. Le 10 ans américain perd 13 points de base à 86 et dans le sillage, le 10 ans français perd 10 points de base à 3,14 alors qu'il était à 3,11 vendredi. Donc vous voyez, il y a une nette détente de l'obligataire, de l'OAT 10 ans. Donc ça, c'est une bonne nouvelle après le stress de ces deux dernières séances. À noter que vous avez Wall Street qui sur des plus hauts historiques, notamment le Nasdaq et le S&P 500, grâce à Apple, hein, qui gagne quasiment 5% ce soir, avec notamment l'intelligence artificielle, le programme qui a été développé lundi, qui continue d'envoler la valeur, au point que c'est désormais la première capitalisation mondiale. Apple, qui est sur des plus hauts historiques, au-delà des $200, ça porte le Nasdaq plus 1,9%, quand le Dow Jones gagne seulement 0,2%. Vous voyez vraiment l'impact des valeurs technologiques aux États-Unis. Le CAC 40, donc, qui clôture en hausse après deux séances de baisse, plus 0,97% ce soir au fixing, au-delà des 7800 points, 7864 points, le tout donc avec 3,7 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien.
Étienne Braque à Euronext, merci beaucoup. On se tourne maintenant vers Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Il y a clairement eu un avant et un après publication de l'inflation américaine. Et puis quand on a eu cette accélération, finalement on est resté sur une sorte de plateau hein, jusqu'à la fin de la séance.
C'est exactement ça. On était sous le niveau d'alerte à 7830 points ou autour au moment de la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis et ça a permis de déborder ce niveau assez franchement puisqu'on termine un peu loin de ce niveau-là dans des volumes qui sont effectivement plus soutenus que ce qu'on a pu connaître en moyenne au cours des séances des dernières semaines. Donc effectivement des acheteurs qui ont trouvé des points d'entrée pour acheter à bon compte sur des titres. On voit qu'on se précipite pas sur le papier et qu'on manque de relais. On a cet effet hein, avec sur l'indice CAC 40 qui progresse de moins d'1% alors que l'Eurostox et le DAX évoluent en clôture autour de 1,40%. Donc toujours un peu de prudence. On déborde, on réintègre 7830 points, c'était vraiment le niveau d'alerte. On n'a pas réintégré 7916 points qui serait le niveau de neutralisation de ce mouvement de baisse. On rappelle que sous 7830, la cible c'est 300 points de moins aux alentours de 7500 comme cible. Et si on débordait 7916, on pourrait aller chercher 8005 qui est le niveau de réactivation haussière. Donc pour l'instant, encore un peu de prudence, même si manifestement on trouve l'occasion de faire des achats à bon compte à court terme.
Merci beaucoup Romain Daubry. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.
BFM Bourse, on refait la séance.
On refait la séance, bon, on avait commencé de la refaire la séance à partir du moment où on parle de la clôture, on refait la séance. Donc avec nous, Franck Morel, Zone Bourse, Thibaut François, Fastea Capital. Ce qui a marqué cette séance, c'est le rebond des valeurs bancaires hein, qui avaient été attaquées en début de semaine suite à cette dissolution surprise, à cette annonce surprise. Aujourd'hui, on se reprend. Franck, d'après vous, la baisse avait été un peu excessive sur certaines de ces valeurs peut-être ?
Sur les valeurs bancaires, non, en l'occurrence,
ah bon,
je pense que ça n'a pas été
exécuté. C'est mérité.
Et aujourd'hui, ouais. On est sur un rebond technique. Et effectivement, l'incertitude est grande.
On a eu quand même moins 5, moins 6%, peut-être même plus d'ailleurs, il me semble. Hein, sur
les bancaires sont en première ligne. On est sur des métiers qu'on ne peut plus cycliques, où le moindre caillou dans l'engrenage a des impacts considérables sur la rentabilité. On est aussi sur des business qui ne sont pas en croissance et où le moindre mauvaise nouvelle a un impact potentiellement très important sur la rentabilité. En l'occurrence, la dissolution de l'Assemblée nationale est une très mauvaise nouvelle pour le secteur bancaire, avec une baisse de la visibilité qui est considérable. Et je pense qu'on n'a pas fini de baisser sur ce secteur, qui malheureusement, généralement, est précurseur.
C'est le canari dans la mine.
Mon scénario est plutôt une sous-performance de la France, en attendant d'y voir plus clair. Mais l'extrême droite au pouvoir, c'est synonyme de dérapage budgétaire, c'est synonyme de problématiques sur les refinancements, et les premières sociétés en ligne de mire sont les valeurs bancaires.
Qui pourrait être ponctionné, hein. On a le cas de l'Italie où on parlait d'une surtaxe sur les banques finalement qui avait été édulcorée.
On peut parler d'à peu près tout et se faire peur très facilement avec les programmes envisagés, oui.
Thibaut François, donc finalement c'était assez comment dire, cette sanction de ces deux derniers jours sur les banques, ça a été assez soft.
Je suis un peu moins pessimiste. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de volatilité effectivement jusqu'à la fin juin, début juillet bien entendu. On va d'abord attendre les résultats, parce qu'effectivement la dissolution, c'est pas forcément la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que on arrive dans l'inconnu potentiellement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a pas encore de visibilité sur le futur de l'Assemblée nationale. Effectivement, si l'Assemblée nationale change de façon extrême, là effectivement il y aura des vrais sujets en France.
Il y aura des changements de toute façon.
Il y aura du changement, et là effectivement on va se mettre des coups de stress. Pour l'instant, on est plutôt dans une réaction épidermique. Alors effectivement, ça bouge. Effectivement, si ça passe d'un point de vue extrême, on va rentrer dans une période où on n'aura aucune visibilité. Aucune visibilité, parce que c'est jamais arrivé. Donc on ne sait pas comment ça va être pris. Mal, je pense, mais effectivement derrière c'est quoi les programmes, parce qu'effectivement entre le programme, et là on a l'habitude depuis 30 ou 40 ans, entre le programme qui est annoncé et le programme qui est fait,
il y a quand même
une grosse différence. Les dérapages budgétaires, en fait on est déjà en dérapage budgétaire depuis 30 ou 40 ans, donc effectivement ça va continuer, mais qui va financer? Donc il y a plein d'inconnus, donc effectivement qui dit inconnu dit volatilité et surtout baisse des marchés, mais avant d'avoir cette inconnue, il faut d'abord effectivement aller voter 30 juin, 7 juillet, et puis après on verra.
On a retenu les dates.
Effectivement, si on a un vote extrême, les banques, elles vont être sous pression. Dans un vote classique,
c'est un coup de semonce là.
Dans un vote classique, je pense qu'il y a eu trop de baisses sur la partie bancaire. Je pense que la partie bancaire est plutôt à acheter dans des fondamentaux, on va dire, classique.
D'accord. Hors période de stress actuellement, le calme sera un petit peu revenu. On va demander à Romain Daubry ce qu'il en pense graphiquement parlant de ce secteur bancaire. Vous êtes de l'avis de Franck Morel, comme quoi les banques, graphiquement parlant, enfin les banques françaises, là, elles peuvent tomber encore plus bas. Ce qu'on a vu finalement, c'est un avant-goût de ce qu'elles peuvent retracer comme courbe si jamais il y a véritablement un coup de stress encore plus important.
Alors oui, effectivement, il faut dire que le secteur bancaire a été surperformant depuis plusieurs mois, voire même au-delà de ça. Et c'était un des rares secteurs qui continuait à surperformer l'indice CAC 40. Il n'y avait pas tellement d'harmonie dans les secteurs, et c'était un des rares secteurs qui le faisait. Cela jusqu'à des points hauts à la fin du mois de mai, où là on a atteint des cibles graphiques d'une part, et puis on a commencé à avoir des acteurs qui ont commencé à être en ligne, voire à sous-performer. Et effectivement, le coup d'arrêt donné en début de semaine rend ce secteur plus fragile, et ça avait déjà été le cas en amont la semaine précédente. Donc, un vrai coup d'arrêt sur des niveaux de résistance, et on l'a vu sur plusieurs titres. On a eu ce qu'on appelle des avalements baissiers, c'est-à-dire que la bougie de la semaine dernière, donc avant les élections, a englobé la bougie de la semaine précédente. Et ça, ce qu'on appelle un avalement baissier en haut de marché et de façon hebdomadaire, c'est souvent un signe d'arrêt. Alors, à lui seul, ça ne fait pas une tendance, mais il y a un vrai coup d'arrêt. Donc, un secteur qui était fort et qui, globalement, évoluait au sein d'un canal haussier, qui en est sorti par le haut, qui bute sur une résistance. Donc, on a au mieux un coup d'arrêt dans la tendance. Alors, après, il faut voir titre par titre les comportements des valeurs. Si on regarde la BNP, elle a bien réagi sur un niveau de support à 60-50, mais c'est juste une réaction dans un mouvement qui a été quand même assez violent, avec un gap baissier, avec des volumes très supérieurs à la moyenne. Donc, pour les investisseurs agressifs, ça peut constituer des points d'entrée, mais on n'a pas de figure de retournement haussière, évidemment, dans l'immédiat, et on a plutôt eu un coup d'arrêt dans une tendance qui était forte, mais qui ne l'est plus. Donc, de façon sectorielle, attention, ça n'est plus le secteur fort du moment, et ça depuis 3 semaines, 15 jours, 3 semaines maintenant. Et de façon individuelle, il y a des niveaux à préserver à très court terme, donc il faut regarder cas par cas et selon chaque banque comment les travailler. On est sur des niveaux fragiles et on voit que les rebonds sont plus des rebonds d'opportunités techniques dans un mouvement qui est en tout cas baissier à très court terme depuis le début de la semaine.
Un secteur qui a marqué la séance aussi, c'est l'automobile. Alors, au sein des valeurs automobiles françaises, il n'y a pas eu trop de mouvement, mais c'est surtout les valeurs allemandes qui sont attaquées pour un Dieselgate en Grande-Bretagne. Et une autre info certainement plus importante aussi qui concerne tout le secteur, c'est cette taxe supplémentaire, ou plutôt ce relèvement de taxes douanières de Bruxelles sur les véhicules électriques chinois, 38%. Quelle est la portée d'une, ou quelle serait la portée d'une telle mesure, Franck ?
La portée, c'est des mesures protectionnistes, mais à l'échelle européenne, pas à l'échelle nationale. C'est déjà mieux.
Ah, c'est déjà solide. Pas mal. Oui, bien sûr.
On part dans la continuité de nos discussions.
Donc pourquoi on s'inquiète pourquoi est-ce que les valeurs allemandes, justement, donc, parce que là, ça concernerait les valeurs chinoises.
Les valeurs allemandes très exportatrices, Porsche, BMW, Mercedes, c'est 25% de leur chiffre d'affaires est fait en Chine.
Il y aurait des rétorsions à parier
qu'il va y avoir une réponse de la Chine. Donc les grands gagnants, c'est en premier lieu par exemple Renault, qui fait pas de business en Chine, mais qui subissait la concurrence chinoise, et qui la subira de toute manière, mais avec des prix pour ses concurrents plus élevés de 25 à 38%. Donc Renault fait partie des gagnants de cette situation. Les constructeurs allemands, les grands perdants. Si on joue un coup plus loin, on a effectivement un risque sur le secteur du luxe, si toutefois la Chine mettait en place des mesures équivalentes sur les produits français, les produits du luxe en premier lieu.
Quelque chose à dire là-dessus, Thibaut-François, sur l'automobile. C'est un secteur auquel vous vous intéressez, les valeurs automobiles françaises, les équipementiers automobiles?
Beaucoup moins ces dernières semaines, ces derniers mois. On trouve qu'on est rentré dans un momentum qui est un peu plus compliqué pour le secteur automobile. 2024 va être compliqué, il y a moins de volume. La valorisation de l'ensemble du secteur est encore une fois à la casse. Malgré la qualité des dirigeants, on est sur un secteur qui est à la casse, mais la valorisation malheureusement ne suffit pas à acheter aujourd'hui sur le marché, mais aujourd'hui le momentum n'est pas forcément très porteur, donc pour l'instant on est plutôt neutre sur l'ensemble du secteur, avec une préférence aussi pour Renault qui rebondit bien et sur lequel il y a pas mal de potentiel.
Donc il y a encore du potentiel bien que la valeur ait beaucoup rebondi. Je ne sais pas si Romain Daubry a un avis certainement sur le secteur automobile, les valeurs françaises en particulier ou les valeurs allemandes, vous êtes libre.
Alors, mais sur le secteur automobile, si on le regarde en Europe de façon générale, il avait surperformé quelques temps. Ça a été de courte durée par rapport aux indices de référence. On parle de surperformance quand le secteur progresse plus qu'un indice de référence comme l'Eurostoxx ou comme le CAC 40. En Europe, ça a été de courte durée. Ça a été de fin janvier jusqu'au mois d'avril. Et depuis, le secteur globalement ne surperforme pas autant. Maintenant, à l'intérieur des secteurs, et c'est ce qui se passe beaucoup dans ce marché, il faut faire du stock picking, aller choisir des titres en particulier. Et il y a des titres, en France, notamment un titre comme Renault qui surperforme et qui donne un parcours haussier qui est vraiment intéressant depuis quelques semaines maintenant. C'est un titre Renault qui n'avait rien fait de 2020 à mars 2024 et qui est sorti d'une longue période d'accumulation par le haut puissamment de la zone 37-30, 41-25 et qui ouvre à ce moment-là la voie à une tendance haussière et à une progression haussière assez marquée. Les cibles idéales de cette sortie par le haut se situent entre 66,70 et 69,84
pour un titre qui cote. Ouais, 50,78.
Absolument. 50,78 ce soir. Donc il y a encore une prime de plus de 30% sur le titre si on suit ce parcours graphiquement. Maintenant, à court terme, il y a un petit peu de pause dans la tendance et on pourrait imaginer une consolidation au-delà de 48,30, entre 48,30 et 51,80, on va dire. Mais c'est une pause à court terme dans une tendance qui est forte et un actif et une valeur qui surperforme, elle, de nettement le secteur.
Alors, le gain du jour, c'est Atos, moins 20%, 77 centimes d'euros. On est vraiment, ça devient un penny stock.
Carrément. C'est la descente aux enfers.
Petit mot rapide, l'un ou l'autre sur Atos.
Oh, vache. Oui. Je crois qu'on peut dire qu'il va y avoir une recapitalisation et qu'il va y avoir une dilution massive qui laisse supposer un objectif de cours de 0,20, 0,30.
Ah oui, d'accord. Donc ça risque encore d'être divisé par 3 ou par 4.
Après une recapitalisation qui sera d'ailleurs peut-être même pas suffisante.
Donc à l'écart. À l'écart. Il vous reste une minute chacun pour nous donner une pépite. Thibaut, laquelle est-elle ?
Allez, on va parler de Boiron ce matin.
Allez, granule.
Ce soir, Boiron, effectivement, homéopathie. Un dossier qui a failli sortir de bourse l'année dernière. La famille et un fonds de private equity ont essayé de sortir de bourse autour de, pour faire simple, autour de 40 euros. Personne n'a apporté 40 euros, pas un investisseur pensant jouer une hausse assez massive du titre, parce qu'effectivement, 40 euros, c'était pas très bien rémunéré. Et aujourd'hui, on se retrouve presque un an après avec une décote par rapport aux 40 euros à presque 15 ou 20%. Alors, il y a eu un dividende qui a été versé. Mais effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de potentiel. C'est un titre qui devrait sortir de bourse parce qu'il n'y a aucun intérêt à rester en bourse. La valorisation est faible et le potentiel nous reste intact.
Et Franck, votre pépite en 30 secondes, je suis désolé.
Oui, je vais vous parler de Super Micro Computer qu'on a en portefeuille dans le cadre de notre portefeuille US, qui est notre plus belle opération l'année dernière puisque en l'espace d'un an, on a fait x8 sur le titre, on a pris nos bénéfices, on est revenu après une petite correction de 20% à $800 environ. Et donc Super Micro Computer, c'est le spécialiste de l'assemblage de serveurs, plus particulièrement les serveurs liés à l'IA. Ça se paye 23 fois les profits. Les perspectives sont extrêmement bonnes. Et donc on est à l'achat sur Super Micro pour miser sur la poursuite de la phase d'équipement en serveur d'intelligence artificielle.
Voilà qui est dit. Merci beaucoup à tous les deux. Franck Morel, Thibaut François, merci à Romain Daubry, bien entendu, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. BFM Bourse revient dès demain à partir de 15h30. Dans l'immédiat, vous retrouvez Good Evening Business, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, bien entendu, et Edwige Chevrillon. Très bonne soirée à toutes et à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.